Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Depuis plusieurs émissions, nous nous demandons quelle est la place du chrétien dans la société et quelle influence peut-il y exercer?
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons parlé du rôle du chrétien dans une société marquée par la pandémie du VIH-Sida. Mais quel va être notre sujet de discussion aujourd'hui?
Nous avons mentionné la dernière fois que la maladie du sida laisse sur son sillage un grand nombre de veuves et d'orphelins. D'autres maladies, d'ailleurs, telles que le paludisme, sont responsables des mêmes conséquences. De plus, certains pays marqués par des conflits violents constatent eux aussi un nombre croissant de veuves et d'orphelins et de personnes déplacées que l'on appelle les réfugiés. De telles personnes deviennent vulnérables car elles se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, souvent démunies et impuissantes. Il arrive alors malheureusement que des individus sans scrupules exploitent leur faiblesse à des fins égoïstes et méchantes. Ces personnes deviennent alors victimes d'injustices, d'abus et de maltraitances. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons réfléchir sur le rôle que les chrétiens et les églises peuvent jouer auprès de ces personnes vulnérables et démunies.
Et pour cela, nous allons nous appuyer sur l'enseignement de la Bible.
Oui, pour commencer, nous allons lire un verset qui nous montre que Dieu prend au sérieux la situation de ces personnes. Il éprouve envers elles une compassion toute particulière. Écoutons par exemple le psaume 68, verset 6.
Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation.
Ainsi, comme l'Éternel se soucie des veuves et des orphelins, il demande à son peuple de s'en soucier. Il lui demande de prendre soin d'eux et de défendre leurs droits. C'est pour cela que de nombreux textes dans l'Ancien Testament expriment cette pensée. Tout d'abord, dans la loi que Dieu a confiée à Moïse, nous trouvons une citation à ce sujet dans le livre du Deutéronome, chapitre 24, versets 17 à 21.
Tu ne fausseras pas le cours de la justice au détriment d'un immigré ni d'un orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que l'Éternel votre Dieu vous en a libéré. C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve.
Oui, il est clair que Dieu a inscrit dans la loi des ordonnances visant à protéger le sort des plus vulnérables, visant aussi à s'assurer que leurs besoins les plus fondamentaux étaient pourvus. Mais le peuple de Dieu a-t-il toujours su mettre en pratique ces lois?
Apparemment non, car en lisant les prophètes, nous découvrons des textes qui dénoncent justement le mauvais traitement que les personnes vulnérables ont reçu, les abus de justice et l'exploitation qu'elles subissaient. C'est pourquoi les prophètes appelèrent le peuple à pratiquer les lois de l'Éternel et à exprimer envers ces personnes tout l'amour de Dieu. En guise d'illustration, lisons un passage tiré du livre du prophète Zacharie, chapitre 7, versets 9 et 10.
Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Rendez des jugements conformes à la vérité. Témoignez-vous mutuellement de l'amour et de la pitié. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré et ceux qui sont dans le besoin, et ne tramez aucun mal les uns contre les autres.
Donc l'enseignement biblique à ce sujet est clair. De par leur situation vulnérable, les veuves et les orphelins, ainsi que les réfugiés, et toute personne dans le besoin comme les personnes handicapées par exemple, mérite une protection toute particulière accordée dans le cadre de la loi. De même, il revient à la société d'agir de son mieux afin que l'essentiel de leurs besoins soit assuré. Toutefois, nous n'habitons pas en Israël à l'époque des prophètes. Alors, comment traduire l'enseignement biblique dans notre situation actuelle?
Il est vrai que de nos jours, le peuple de Dieu constitue l'Église et que dans la plupart des pays, l'Église est séparée de l'État. Ainsi, le peuple de Dieu ne se trouve pas en position de rédiger les lois d'un pays. Mais nous pouvons nous organiser afin de promouvoir les droits des personnes vulnérables auprès des autorités, dans l'espoir qu'elles prêtent attention à notre demande et qu'elles agissent en faveur des démunis. D'autre part, si l'Église abrite en son sein des veuves et des orphelins, des réfugiés ou des handicapés, elle peut faire de son mieux afin de venir à leur secours et de les aider à s'en sortir sur le plan matériel, émotionnel et spirituel. De même, si ses ressources le permettent, elle peut entreprendre des actions auprès de telles personnes habitant dans le quartier de l'Église ou dans le village même.
Vous venez d'évoquer la question des ressources. Car il faut l'admettre, les églises en ont souvent très peu, comparé aux besoins énormes auxquels elles sont confrontées.
Ce que vous dites est vrai et représente un problème difficile à surmonter. En nous demandant d'aimer notre prochain et tout particulièrement ceux qui sont vulnérables, Dieu nous demande d'être généreux et de faire certains sacrifices. Toutefois, il faut aussi être réaliste. Dieu ne nous demande pas de tout porter. Nous ne pouvons pas nous occuper de tout le monde. Nous ne pouvons pas accomplir l'impossible. Il faut prier Dieu afin qu'il nous accorde la sagesse de savoir ce que nous pouvons accomplir et aussi d'accepter nos limites. Ensuite, souvent lorsque l'on pense aux ressources, c'est l'argent qui vient à l'esprit. Toutefois, nous pouvons agir envers les personnes vulnérables sans forcément avoir recours à des dépenses financières. Nous pouvons nous lier d'amitié avec elles et leur apporter ainsi un soutien moral et spirituel. Nous pouvons leur donner des conseils et peut-être les aider dans leur démarche auprès de l'État ou d'associations compétentes en vue de leur faire trouver l'aide que nous ne pouvons pas nous-mêmes leur fournir.
Merci Robert pour ce rapide tour d'horizon sur ce sujet si important. Si parmi nos amis auditeurs, certains se sentent démunis et impuissants, sachez que Dieu n'est pas indifférent à votre sort. En lui, vous trouverez un secours, un réconfort et une espérance. De même, il confie à l'Église cette responsabilité qui consiste à veiller, autant que cela est possible, sur le sort de ceux qui sont en difficulté.
Merci Yann pour ce beau résumé et au revoir à tous.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Nous avons appris que le fruit de l'esprit dépeint le caractère de Jésus-Christ et qu'il présente les qualités divines auxquelles tout chrétien doit aspirer. Notre invité Étienne va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera dans un premier temps la façon dont Jésus demeure pour nous un exemple à travers elles, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, nous allons parler une dernière fois de la troisième qualité mentionnée par Paul. Il s'agit de la paix. Et je cède tout de suite la parole à Étienne.
Merci Yann pour cette introduction. Et bonjour à tous. Nous avons appris que la paix dont il est question dans ce verset, c'est-à-dire celle produite par l'esprit, procure un calme, une tranquillité intérieure, alors même que tout autour de soi est agité et troublé. L'esprit faisait abonder en Jésus cette paix-là, et aujourd'hui, il désire la reproduire dans nos propres vies. Cet enseignement est pertinent car, il faut l'avouer, toute paix intérieure disparaît facilement dès que nous sommes confrontés aux aléas de la vie. Il suffit de si peu quelquefois pour que nos pensées et nos sentiments soient troublés et que nous tombions dans l'inquiétude et l'angoisse. Cependant, Dieu ne veut pas que nous demeurions dans un état perpétuel d'anxiété. En effet, nous pouvons vivre des périodes turbulentes et douloureuses, et nous pouvons subir de nombreuses pressions et des contrariétés. Cependant, quand tout autour de nous est agité, Dieu veut que nous demeurions dans la paix. Et il nous donne son esprit, afin que nous puissions vivre cette réalité. Que pouvons-nous faire pour connaître cette paix intérieure et spirituelle? Ce que Paul a écrit aux chrétiens de l'église de Philippe, au chapitre 4, les versets 6 et 7, est instructif. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Vos cœurs sont-ils troublés? La paix et la tranquillité de l'âme vous ont-elles quitté? Alors Paul vous adresse deux exhortations. À travers la première, il vous incite à vous tourner vers Dieu, qui est l'auteur et la source de la paix, qui surpasse toute connaissance. Vous ne trouverez nulle part ailleurs une telle paix. Vous pouvez parler à Dieu de vos soucis, les lui remettre, fort de l'assurance qu'il est digne de confiance et qu'il maîtrise le cours de vos circonstances. Ensuite, Paul vous conseille de nourrir vos pensées de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est juste et mérite la louange. Souvent, lorsque nous sommes inquiets, nous pouvons passer et repasser dans nos pensées de multiples scénarios à catastrophe où nous imaginons toujours le pire. Ou bien, nous pouvons commencer à concevoir de mauvais projets. Ces pensées négatives ne font qu'empirer notre agitation. Alors, nous devons nous obliger à penser à autre chose. Et notamment, nous pouvons méditer sur Dieu, qui est digne de confiance, qui est amour, et qui nous offre une espérance éternelle. C'est ainsi que l'Esprit nous aidera à retrouver notre paix dans un monde agité.
Merci Étienne pour ces conseils précieux.
Étienne sera de retour parmi nous la prochaine fois et il nous parlera de la patience. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.